L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35. Bonjour Bernard Vacherot.
Salut, bonjour.
La semaine dernière, vous vous apprêtiez à démarrer une minute juste avant la fin.
Oui, oui.
Comment on recrutait ou comment on devenait moine au 6e, au 7e siècle?
Oui.
Vous nous aviez expliqué auparavant le pouvoir des abbés par rapport aux évêques et la bagarre que ça a été arbitrée par le Vatican. Mais bon, comme vous aviez décrit les règles, comment choisissait-on? Mis à part les esclaves, vous nous l'avez dit, comment choisissait-on, je sais pas moi, d'aller apprendre à lire, écrire, travailler les champs, se recueillir et méditer, c'était tout ça encore? Se rapprocher de Dieu en quittant le monde?
Bien entendu. Et justement, je vais quand même terminer ce que j'avais commencé sur les esclaves. Bon, ce n'était pas du tout par mépris des esclaves, bien au contraire. C'était dans un but aussi de les respecter et de les protéger. Pourquoi ? Parce que la législation de l'époque, qui était donc tout à fait romaine encore, ne considérait pas l'esclave comme libre et l'affranchi à peine. Or, leur ancien maître ou leur maître était tout à fait libre selon la loi civile, je vous redis, que les monastères s'étaient placés sous la loi du roi et sous la loi civile. La loi civile prévoyait que l'esclave ne devait pas quitter son maître et que le maître était tout à fait autorisé à le reprendre où qu'il soit.
Mais dites-moi quand même, on n'avait peut-être pas inventé les termes de racisme encore, mais l'esclave était souvent d'une autre origine que les maîtres.
Absolument.
Enfin, dans l'Empire romain.
Absolument. Alors, il y a de nombreux ouvrages sur l'esclavage. J'en ai quelques-uns dans ma bibliothèque. Bon, il est vrai que, à l'époque qui nous concerne, les marchands d'esclaves, notamment des marins en particulier, qui vendaient leurs esclaves, prenaient souvent des esclaves chrétiens. Nous ne sommes pas encore à la naissance de l'islam. L'islam n'est pas encore apparu, historiquement. Des esclaves chrétiens ou païens, mais les esclaves chrétiens, fort nombreux parmi les esclaves, se trouvaient donc dans une situation très délicate, chrétiens et exclus par des chrétiens dans les ordres monastiques. Alors, pour pallier à cela, la règle avait été prise, mais puisque vous risquez d'être repris par votre maître, pour éviter l'humiliation au postulant de se présenter à la porte de la communauté, de voir les sourires des moines accueillants, et tout d'un coup le maître qui vient et qui le reprend sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. Il y avait une humiliation terrible pour le jeune homme ou la jeune fille. Donc pour éviter cela, pour éviter cette situation particulièrement pénible, eh bien, les moines avaient pris cette règle. Non. Bon. Alors, non pas qu'ils étaient exclus de la communauté chrétienne, pas du tout. Bien au contraire. Mais, pour le moment, monastère, pas possible. Alors, là-dessus, justement, Saint Benoît prend des règles précises, et il veut que tous les postulants, tout arrivant au monastère, commencent par faire d'abord un temps de réflexion. Dans ce temps de ces réflexions, il est confié. C'est ce qu'on appelle, il était logé dans la maison que l'on appelait la maison des étrangers. Hein, et était confié à un moine âgé et expérimenté qui avait le devoir de l'instruire de ses obligations pour être admis à faire son noviciat. Le noviciat durait un minimum d'un an. Donc un an plus ce temps, ça faisait un an et demi à deux ans parfois. Hein. Voilà. Et dans le noviciat, on enseignait la règle aux novices en leur disant à chaque fois, voilà la règle sous laquelle tu veux servir. Si tu peux l'observer, entre, sinon retire-toi. À chaque leçon, c'était dit. Hein? Donc, le jeune savait. Et c'était dit dans sa langue. On ne parlait pas en latin, on parlait en gaulois, dans les régions imparties. Alors, admis, le jeune moine renonçait à tout acte de volonté personnelle, et oui, à une exigence, et promettait obéissance à l'abbé du monastère, qu'en principe, sauf permission spéciale, il ne devait plus quitter. Alors, obéissance absolue. Obéissance, qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce que l'obéissance? On va se placer au plan théologique.
Arrêtez, c'était le sujet de mon bac de philo.
Ah, formidable. Tu es un bon théologien alors. Hein?
Ah non, j'ai eu une mauvaise note.
Parfait. Moi aussi j'ai eu une mauvaise note en obéissance. Hein? Alors, théologiquement, il s'agit d'une vertu morale rendant la volonté prompte à se conformer à un commandement donné. Cette vertu est en principe considérée en théologie comme la plus parfaite des vertus morales, car elle se réfère à Dieu. Alors, confère là-dessus ce qu'écrivait saint Paul dans sa lettre aux Romains, au chapitre 13, versets 1 à 7, ou bien, dans l'Ancien Testament, au premier livre des Rois, au chapitre 2, versets 13 à 15, 15 inclus. Alors, c'est de cet esprit, d'une part de l'Ancien Testament et de l'autre du Nouveau avec saint Paul, que vient toute véritable autorité, au sens théologique du mot. Hein. De ce fait, nul ne doit obéir à un précepte opposé à Dieu ou à ses commandements dans sa loi ou dans ses lois naturelles. Les religieux font vœu d'obéissance à leurs supérieurs et aux règles de leur ordre, par exemple monastique. Donc, l'obéissance et le vœu, c'est-à-dire la promesse d'obéissance, sont exigés du postulant à la vie religieuse ou monarchique. Maintenant, l'obéissance sans esprit d'abnégation risque de n'être que formelle. Sans adhésion profonde, libre et voulue, et à la longue, sans aucune motivation, entraînant ou non une adhésion et différentes formes de refus, et de là de désobéissance, avec toutes les conséquences qui s'en suivent.
C'est une forme de sélection, est-ce qu'il y avait du déchet?
Il y a forcément.
Non, bah,
il y a forcément. C'est là où se joue la liberté de la personne de faire un choix.
Oui, donc il y a des gens qui circulaient, qui étaient d'anciens novices, qui n'avaient pas tenu le choc. Quoi.
Absolument.
Mais bon, ils avaient appris des choses, au passage.
Bien entendu, et ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas tenu le choc, comme vous dites, qu'ils étaient pour autant rejetés, méprisés, etc. Non, pas du tout. Hein, du tout
non,
du
non,
tout.
Mais je veux dire, oui, dans un CV, avoir été novice pendant un an, c'est sûr qu'ils ont appris des choses.
Tout à fait.
Ah, après, je sais pas, ils devenaient secrétaires.
Tout à fait, ils avaient un niveau d'instruction un peu amélioré quand même par rapport à d'autres. Hein. Mmh. Alors, ayant prévu cette éventualité justement, hein, comme vous l'avez souligné, les règles monastiques, dont celle de Benoît, exigent que l'obéissance ait pour fondement l'abnégation. Alors, qu'est-ce que l'on veut dire par abnégation?
Ah oui, oui, qu'est-ce que c'est l'abnégation?
Ah. Eh bien justement, on va prendre l'étymologie, ça, je suis un maniaque de l'étymologie, hein. Ça vient du latin abnegare, ab, la racine ab signifiant une séparation, et negare signifiant nier, le verbe nier, la négation. Alors, le terme d'abnégation a donc pour sens le renoncement à toute forme d'égoïsme ou d'individualisme. Et il marque l'exigence de se sacrifier pour obéir à Dieu. Et là, je prends la référence biblique, Saint Matthieu, au chapitre 16, verset 24, où il est écrit, la parole du Christ, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie à lui-même. » Se renier à soi-même, je sais que ça choque dans notre esprit actuel, bien sûr, il ne s'agit pas de se nier, je n'existe pas, je n'ai aucune volonté, aucune liberté, ac cadaver, comme on disait autrefois, comme le cadavre. Négatif, 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 ça n'a rien de tout cela. Mais c'est rejeter ce qui en moi est sans valeur pour atteindre au plus profond de moi-même ce qui est la véritable valeur.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les villes s'éclabousseraient de bleu parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile.
Alors, pour devenir moine, on est bien sûr dans l'émission Histoire des religions, Histoire du monachisme avec Bernard Vacherot. Vous disiez, avant que Jacques Brel nous interrompe, c'est l'abnégation, ça veut dire renoncer aux vanités terrestres.
Absolument, sans pour autant renoncer à ce qui fait la véritable valeur de soi, bien au contraire, puisque c'est se débarrasser de tout ce qui est une ukase en nous, pour atteindre le moi profond,
l'inaccessible réel étoile.
Et beau. Voilà.
C'est pour ça que je vous ai mis la quête.
Oui, j'ai bien perçu, hein. Mais vous mettez toujours des super chansons, hein. Alors, nous voyons que à cela s'ajoute donc l'idée de renoncement et l'idée de dépouillement doublée de la mortification et du détachement qui lui sont profondément liés. Alors, il ne s'agit pas là de tomber dans l'esprit de Port-Royal des Champs hein, au XVIIe siècle, qui était justement ce hack cadavère, qui est l'exacte antithèse de ce que voulait le véritable monachisme. Puisque avec Port-Royal des Champs, on arrive à la négation de toute espérance et à quasiment à la négation du salut, seule quelqu'une petite élite de l'élite de l'élite peut être sauvée, les autres, vous êtes tous damnés aux enfers. Bon, ben, très bien. À ce moment-là, je sais que ce n'est pas la peine que je prenne le chemin du paradis, je vais tout de suite en enfer. Bien. Alors, pas du tout dans l'esprit du monachisme ancien, voilà, ce Port-Royal des Champs, ce n'est qu'une horrible déformation de l'ancien esprit. Alors, justement...
Très influencé par l'influence de la noblesse aussi, quand même, le jansénisme, non ?
Oui, mais celle de l'époque.
Il y a des élus, quoi.
Celle de l'époque, entendons-nous, hein. Bon, cachez ce saint, madame, que je ne saurais voir. Oui, mais qui a dit ça, c'est un tartuffe. Bon, alors, voilà que, justement, tout cela exige du postulant à la vie monachique une réelle humilité au sens le plus exigeant et le plus spirituel du terme. Un effacement de soi total et de ce fait un renoncement à la vanité. Et précisément Saint Grégoire de Tours, évêque de Tours de 573 à 594, année de sa mort, enseigna que le renoncement à toutes les formes de vanité était une nécessité impérative pour le moine comme pour l'ermite. Alors, jusqu'au 7e siècle, en effet, vous allez voir pourquoi est-ce qu'il y avait de telles exigences. Jusqu'au 7e siècle, il y avait une coutume qui a été abrogée à cette époque-là, d'ailleurs, qui voulait que pour des raisons pas toujours strictement religieuses, bien loin de là, certains pères de famille nombreuses plaçaient leurs enfants, âgés souvent d'à peine 6 ans, dans la possibilité de devenir des moines, pauvres gosses. Pour lutter contre cette coutume barbare, Saint Césaire d'Arles, évêque d'Arles vers 502, jusqu'à sa mort en 542, décida qu'aucun enfant âgé de moins de 6 ans ne pourrait être admis à suivre une sorte de noviciat, même si celle-ci était prétendument adaptée à son jeune âge. Bien. Et encore, disait Saint Césaire d'Arles, il ne s'agirait que d'un pseudo-noviciat équivalent à une pseudo-oblature sans caractère définitif. Saint Aurélien, très vénéré à Limoges, notamment avec la chapelle Saint Aurélien dans la rue des Bouchers, Saint Aurélien, qui a vécu à peu près à la même période, alla encore plus loin, en exigeant qu'aucun enfant de moins de 10 ans, et là il ne s'agit plus de 6 ans, de moins de 10 ans, ne puisse être admis au noviciat, et encore ne s'agissait-il que d'une oblature assez vague. Ces oblats se trouvaient obligés de persévérer, alors les vrais oblats, plus adultes, de persévérer dans la vie monachique, même si, pour des raisons X ou Z, leur volonté n'était pas évidente. C'est pourquoi, dès le 8e siècle, on commença à douter du bien fondé des décisions et obligations dans ce sens. Conscient de ces problèmes, Saint Boniface, d'origine anglaise, dont le prénom fut Winfried, fut le grand artisan de la conversion du peuple germain, c'est-à-dire allemand ou alémanique. Il mourut en martyr, en Frise, en l'an 755. Et Saint Boniface écrivit au pape Grégoire II, pape de 715 à 731, pour lui demander s'il ne lui paraissait pas juste que des enfants ainsi contraints à des obligations pour lesquelles ils n'avaient aucune vocation réelle puisse renoncer à tout engagement religieux. Très éloigné de la largesse de vue de son prédécesseur, Saint Grégoire le Grand, et ne brillant pas par une très grande intelligence, Grégoire II lui répondit que ses enfants avaient été consacrés à Dieu et ne devaient pas être mêlés au monde. Et il ajouta que leurs parents avaient offert de nombreux biens au monastère.
De rembourser.
On peut ici constater que les ressources financières des papes de Rome eurent de très étranges chemins, sources et méthodes. Faisant un marchandage sur le dos des enfants, ainsi prisonniers pour toute leur vie, d'une religion qui les exploitait, on peut comprendre la haine refoulée qu'ils devaient ressentir contre leur vie, le monachisme et les monastères.
Mais c'est terrible ce que vous nous dites, parce que
bien sûr.
Ça veut dire qu'il peut y avoir, par exemple, des enfants qui se sont échappés, qui sont devenus des rebelles quelque part.
Tout à fait.
Hein, et voire même, pire, d'autres qui sont restés et qui, prenant des responsabilités en tant qu'abbé,
avaient la haine de leur monastère.
Et y compris pas la foi.
Tout à fait.
Ah bon?
C'est l'histoire humaine, hein, c'est ainsi. Hein. Alors, quand le pape Grégoire II fait mention de dons effectués par les parents des enfants à l'occasion de leur entrée forcée au monastère, il fait allusion au fait qu'à leur entrée au monastère, de nombreux moines, les nouveaux moines, devaient se dépouiller de leurs biens et en faire don au monastère, soit aux pauvres, chose absolument normale, pour des adultes, réfléchis et consentants. Nous venons de voir que la règle des monastères voulait que tout nouveau moine fasse don de ses biens, ce qui était normal du fait qu'il va vivre en communauté, il faut que la communauté puisse subvenir à ses propres besoins vitaux. Et de plus, le monastère aidait les plus pauvres et les paysans en leur assurant aide et protection. Donc il fallait bien qu'il y ait des ressources financières, on n'a pas encore acheté du pain sans payer le pain.
Bon, et en même temps, il fallait bien que les parents, quand ils laissent des enfants, ils lisent les conditions générales non remboursables, c'est ça.
Il y avait de tout.
Vous allez encore nous expliquer tout ça dès la semaine prochaine, Bernard Varchereau.
Bien.
Merci.
Je suis obéissant. C'est le cas de dire.
Quelle abnégation. Histoire des religions. La genèse du monachisme par Bernard Varchereau, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.